Kiosque Magazine.
Bien le bonjour à tous et bienvenue ici Franceline Nieuviat.
Oui, bonjour à chacun.
Et Roger Roy, nous sommes là pour vous proposer le Kiosque Magazine du lundi 9 février. Le Kiosque Magazine du lundi se consacre à la culture et à la société. En régie, Jean-Sébastien Laliberté est au menu aujourd'hui, Franceline.
Oui, alors ma première intervention sera tirée du journal L'Itinéraire du 15 janvier 2015. Elle portera sur deux problèmes de société. La première, c'est quoi le problème? Ce sont des réflexions des camelots de l'itinéraire et le deuxième petit article, un bon plan avec des moyens qui sont à bonifier à propos de la politique ministérielle pour prévenir et réduire l'itinérance. Ma deuxième intervention sera aussi liée à l'austérité. Le dîner est offert d'abord et ensuite je mange des vidanges.
Tiens,
c'est pas drôle.
Non.
Et enfin, ma troisième intervention, aider financièrement ses enfants sans se mettre en péril, c'est tiré du Bel Âge de décembre 2014.
Alors, pour ma part, je me pencherai sur la revue Relations, sur le grand dossier qui s'appelle Contrôle social. C'est les nouveaux habits de Big Brother. Alors, on est surveillé d'un peu partout. Là.
Ouais.
Je vous lirai un texte, extrait de Relations. Je vous parlerai aussi d'un chanteur, ex-candidat à l'émission La Voix, qui s'appelle Stevens Siméon, qui a fait quelque chose d'un peu spécial. Ça, c'est dans Reader's Digest, mais pour tout de suite, je me tourne vers le grand dossier de l'actualité de février. Le cerveau qui livre ses secrets. Il s'agit d'un long papier de Valérie Borde, dont je vous donne des éléments suivant le parcours d'une malade que nous fait suivre la journaliste. C'est arrivé brusquement, sans aucun signe annonciateur, fin juin 2010, en revenant du chalet familial, Sophie Clich a perdu connaissance. Après qu'elle eut passé 3 jours aux urgences, le verdict est tombé pour cette Montréalaise de 45 ans, avocate de profession. Une tumeur au cerveau, qui grossit tout doucement, a provoqué une énorme crise d'épilepsie. Si le cancer s'étend, il risque d'entraîner des problèmes encore plus graves. Mais les spécialistes qui l'examinent hésitent à l'opérer en enlevant la tumeur qui s'est développée en forme d'étoile infiltrée dans le lobe pariétal gauche. Ils craignent de paralyser la moitié de son corps, en plus de toucher à des fonctions cognitives très précieuses telles que la mémoire ou le langage. Les autres options, comme la radiothérapie, risquent aussi d'entraîner des séquelles. Que faire? Pour les médecins et chirurgiens, le cerveau est de loin la partie du corps la plus délicate à traiter. On doit composer avec un immense degré d'ignorance de son fonctionnement, alors que c'est l'organe le plus vital de tous ceux dont la nature nous a dotés, s'exclame le docteur Guy Rouleau, généticien et directeur du Neuro, l'Institut et Hôpital neurologique de Montréal, Université McGill, un des fleurons de la recherche québécoise en neurosciences. Pourtant, 1 milliard de personnes dans le monde sont victimes de maladies du cerveau, mais surtout de problèmes psychiatriques et neurologiques qui peuvent gâcher des vies entières. Ces maladies constituent le plus grand besoin médical non satisfait, estime le docteur Rouleau. Dans le siècle passé, on a fait des progrès considérables dans la compréhension des problèmes cardiaques, puis du cancer, qui tuait la plupart des gens avant qu'ils soient atteints d'affections neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson. Ça va être la grande préoccupation du 21e siècle et sans doute du 22e siècle aussi, prédit Guy Rouleau. Depuis 25 ans, il a publié plus de 500 articles scientifiques sur l'autisme, la sclérose latérale amyotrophique, l'épilepsie, la déficience intellectuelle, la maladie bipolaire ou les accidents vasculaires cérébraux dont il cherche les causes et des pistes de traitement dans les gènes. Il y a très peu de progrès dans les médicaments depuis 50 ans. Et on ne connaît ni cause ni remède à nombre de maladies neurologiques et psychiatriques. Mais un vent d'espoir souffle sur les labos où l'on met au point une multitude de technologies qui permettront peut-être enfin de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau humain et comment on peut le soigner. Ces dernières années, gouvernements, industriels et philanthropes se sont unis dans un effort planétaire sans précédent pour doper la recherche en neurosciences et mettre en commun les connaissances en s'appuyant sur les progrès rapides dans le traitement informatique d'immenses quantités de données, les « big data ». Jadis, surtout affaire de psychiatres, les neurosciences entrent ainsi dans l'ère de la « big science », comme on dit en France, mobilisant autour d'un seul objectif non seulement des psychiatres, des généticiens ou des biologistes moléculaires, mais aussi des spécialistes en bioinformatique, analyse informatique et autres disciplines liées au traitement des données. À côté du cerveau, le boson de Higgs, c'était, dit l'auteur, de la petite bière. Sophie Clément a eu de la chance dans son malheur, puisqu'elle a déjà pu profiter du développement technologique qui s'effectue, du développement technologique qui s'effectue actuellement, qui est sans précédent. C'est au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke que la science du cerveau est venue à sa rescousse en la personne du Dr David Fortin, le seul médecin au Canada qui soit à la fois neurochirurgien et neuro-oncologue. Grâce à une technique révolutionnaire, David Fortin croit pouvoir enlever plus des trois quarts de la tumeur de Sophie sans qu'elle en conserve de séquelles. La veille de l'opération, elle doit passer un examen d'imagerie par résonance magnétique, IRM, un peu particulier. D'habitude, l'IRM repère les zones où les neurones consomment de l'énergie sous forme de glucose, ce qui permet de voir lesquelles s'allument lorsque le cerveau est sollicité par une tâche simple, comme compter ou se souvenir de son repas de la veille. Mais pendant que Sophie est allongée immobile dans le cylindre de la machine, l'appareil enregistre plutôt l'activité des molécules d'eau présentes dans ses neurones, ce qui permettra de voir où ils sont connectés entre eux, et pas seulement où ils s'activent. L'opération de Sophie Clich a duré près de 7 heures. Pour maximiser les chances de réussite, Dr. David Fortin a également recouru à une autre technique fascinante utilisée depuis une dizaine d'années. Pendant l'intervention, il a réveillé sa patiente pour lui demander de répondre à des questions, histoire de vérifier en tout temps si son bistouri ne touchait aucune fonction cérébrale. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le cerveau présente la particularité d'être insensible à la douleur, contrairement au cuir chevelu et au crâne. « Je m'en souviens vaguement, dit-elle, je me sentais bizarre, mais pas vraiment incommodée, et elle a gardé très peu de séquelles de l'opération. » Toutefois, malgré le travail ultra précis du Dr Fortin, les quelques cellules qu'il n'a pu enlever ont recommencé à proliférer et l'avocate devra être réopérée. Cette fois, l'intervention chirurgicale ne durera pas aussi longtemps et les techniques progressent tellement vite que ça donne de l'espoir, explique-t-elle, et en confiance de reprendre le travail d'ici quelques mois et de profiter de la vie pendant de nombreuses années. Alors, j'ajoute, en terminant, que dans son texte, Valérie Borde souligne et explique que le travail très technique, surtout à l'aide de l'informatique effectuée par des chercheurs québécois pour approfondir les connaissances sur le cerveau, en plus des docteurs Guy Rouleau et David Fortin, dont nous venons de parler, mentionnons le professeur Yves de Coninck de l'Université Laval, Maxime Descoteaux du département d'informatique de l'Université Sherbrooke, ainsi que du professeur Alan Evans de l'Université McGill.
Et maintenant, c'est quoi le problème? Nous avons tous nos soucis, nos bobos, nos ennuis. Mais la Terre, elle, de quoi souffre-t-elle? Un bilan de santé de notre société mérite d'être fait en ce début d'année. Si on vous donnait une baguette magique, à quel problème majeur vous attaqueriez-vous? Les camelots du journal L'Itinéraire nous confient ce qui, pour eux, ne tourne pas rond sur notre planète ronde. Pour Marc Massy, c'est la guerre. Le plus gros souci dans le monde, selon moi, est la guerre. Je crois que ça ne devrait pas exister, car ça tue plein de gens, particulièrement des enfants. La guerre, ça rend les gens malheureux et c'est complètement inutile. Il n'y a rien de plus innocent qu'un enfant et aucun ne mérite de vivre cela. Pour Johan Bessner, c'est la pauvreté. Le plus grand problème est vraiment la pauvreté. Regardez autour de vous. Il y a un manque de logements sociaux, les gens n'arrivent plus à bien se nourrir et il y a de l'itinérance. Les gouvernements ne pensent pas aux pauvres et ça va de pire en pire. Pour Alex Péloquin, la pollution. La pollution est le plus grand problème de notre planète. On s'empoisonne mutuellement, on pollue l'eau, l'air, la terre. On surpêche, on empiète sur des terres pour construire des centres d'achat. On ne respecte plus l'environnement et au final, c'est nous qui allons payer pour tout ça. C'est la même chose pour Céline Marchand, c'est la pollution aussi. Le problème actuel, la pollution. Il suffit de regarder la couche d'ozone et les dégâts qui sont faits sur notre planète. La pollution est responsable de plein de maladies. Nous n'allons pas survivre si nous continuons comme ça. Pour Jean-Pierre Ménard, c'est l'hommerie. Le plus gros problème actuellement, l'homme. Où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Nous sommes tous par nature égoïstes et nos besoins passent avant ceux des autres. Nous avons peur d'en manquer, alors on est prêt à profiter. On mange son prochain au lieu de s'entraider et c'est vraiment dommage. Par chance qu'il existe encore des gens qui sont prêts à aider. Pour Cybèle Pilon, c'est la technologie. La technologie en général est aujourd'hui un énorme problème. Les machines, les voitures, Facebook, ceux qui les possèdent ou qui utilisent oublient carrément la valeur humaine. Par exemple, quand tu travailles, tu n'es pas avec ta famille. Quand tu conduis, tu es seul à fixer la route. À la maison, tu utilises ton ordinateur, ton téléphone ou tu écoutes la radio, la télé. Le contact est devenu froid. Il y a toujours cette curiosité au travers de cette technologie d'en savoir plus et d'en avoir plus. Pour Guy Boyer, c'est l'ignorance. L'ignorance est le mal de notre monde, la mère de tous les vices. Elle engendre l'intolérance, le sectarisme. Je crois que beaucoup de gens ne veulent fondamentalement pas savoir et malheureusement pour eux, ça les amène volontairement ou non à se marginaliser dans la société. Et pour Gaëtan Prince, c'est le stress. Le monde est stressé, ça n'a pas de bon sens. Ça court toujours, ça n'a pas le temps de rien faire. J'arrive au métro à 5h45 le matin et il y a déjà des gens qui courent, comme si c'était le seul train. Tout cela et la peur d'arriver en retard est malheureusement liée aux facteurs de production de notre société. Il faut être performant. Et pour vous à l'écoute, c'est quoi le problème ? Maintenant, un bon plan avec des moyens qui sont à bonifier. Le plan d'action interministériel en itinérance du gouvernement du Québec, dévoilé en décembre, contient plusieurs bonnes pistes d'action. Mais ces moyens sont largement insuffisants. Sans investissement supplémentaire, il y a fort à craindre que ce plan ne réussisse pas à endiguer l'accroissement de l'itinérance qui est constaté année après année, tant à Montréal que dans plusieurs régions. Les organismes en itinérance attendaient avec impatience la sortie de ce plan d'action qui doit déployer la forte politique nationale de lutte à l'itinérance, adoptée il y a près d'un an. Qu'allait faire le nouveau gouvernement de cette politique gagnée après 8 ans de lutte ? Une politique est certes pérenne, mais son action peut être très relative selon les gouvernements. Il faut souligner et saluer la cohérence dans la vision globale que l'on trouve dans la politique adoptée sous le Parti québécois et le plan d'action adopté par les libéraux. On y retrouve la reconnaissance que l'itinérance se vit dans différentes réalités, qu'il faut agir en amont et en aval sur le phénomène, comme le titre du plan le décrit bien, mobiliser et engager pour prévenir et réduire l'itinérance. Le plan prévoit des actions dans tous les axes de la politique, le logement, la santé, les services sociaux, le revenu, l'éducation, la réinsertion, la cohabitation et la judiciarisation. Aussi, de nombreux ministères sont interpellés par la mise en œuvre de ce plan. Parmi les mesures intéressantes du plan annoncé par la ministre Lucie Charlebois, le RAPSIM, qui est le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, relève le développement du logement social avec soutien communautaire, dont 500 unités pour sans-abri sont prévues cette année. C'est un investissement significatif de 43 millions. Cependant, la révision des programmes en cours à Québec menace le développement de cette action essentielle pour prévenir et réduire l'itinérance. En ce qui concerne la santé et les services sociaux, la somme de 6 millions annoncée par la ministre permettra de consolider et de développer des services importants, tant dans le réseau institutionnel que communautaire. Ces investissements sont concentrés à Montréal, où l'Agence de la santé a dégagé plus du tiers des fonds récurrents. Il faut à la fois applaudir et s'inquiéter de l'action forte de l'agence, car le ministre Barrette a annoncé la disparition de l'agence, elle qui doit pourtant piloter la mise en œuvre du plan d'action sur une base régionale. Des pistes d'action intéressantes se retrouvent aussi en ce qui a trait à la formation, de même qu'au niveau de la cohabitation. Mais rien sur le revenu. Là où le plan fait cruellement défaut, c'est en ce qui concerne le revenu. Aucune mesure n'est prévue pour améliorer le revenu des personnes seules, ni adapter les programmes pour favoriser la réinsertion sociale. La politique nationale de lutte à l'itinérance identifie pourtant bien cette question comme étant une cause importante de l'itinérance. Elle identifie aussi des actions à mener pour prévenir et réduire le phénomène. Pour que ce plan fasse progresser la lutte à l'itinérance, cela prendra des investissements dans des programmes sociaux. Le ministre Carlos Letao prépare son deuxième budget. Faudra lui rappeler, de même qu'aux 11 ministres signataires du plan d'action en itinérance, que les actions fortes et pertinentes prévues doivent être soutenues par des moyens beaucoup plus importants. Voilà, c'était écrit par Pierre Gaudreau, coordinateur du RAPSIM, ce réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Et c'était dans le journal L'Itinéraire du 15 janvier 2015.
Espérons que ça va réussir.
Censure, j'ai valu l'âge et la profession, j'ai valu l'usage de précaution, j'ai valu les montants dévolus, dévalu. J'ai valu beaucoup évalué, si peu évolué. J'ai valu à pied les hémisphères, j'ai valu le décalage horaire, j'ai valu bagages nécessaires, j'ai valu de rester chez ma mère, j'ai valu les montants dévolus, dévalu. J'ai valu beaucoup évalué, si peu évolué. Minuscule pustule sur la terre, j'aimerais faire mention des évaluations. Avant ma rémission, j'ai valu l'aspect économique, j'ai valu que ça tourne au tragique, j'ai valu les études qu'il faut faire, j'ai valu que ça va coûter cher, j'ai valu les montants dévolus, dévalu. J'ai valu beaucoup évalué. Avant ma rémission, j'ai valu devenir missionnaire, j'ai valu être un démissionnaire, j'ai valu ce que j'en ai attiré, j'ai valu que j'en ai rien à cirer, j'ai valu les montants dévolus, dévalu. J'ai valu. J'aimerais faire mention des évaluations. Avant ma rémission, j'évalue. J'évalue.
Luc de la Rochelière. Maintenant, dans le Reader's Digest, celui du mois de février, on peut lire un texte au sujet d'un vélo d'un ex-chanteur de l'émission La Voix et d'un organisme Revivre, un organisme à but non lucratif. Le chanteur Steven Siméon a parcouru 10 287 km à vélo pour soutenir l'organisme à but non lucratif Revivre. Le 15 octobre 2013, Stevens entamait un périple qui allait le conduire de Montréal à Jacksonville en Floride, de Jacksonville à San Diego en Californie, puis à San Francisco. Alors âgé de 20 ans, l'ex-candidat de l'émission La Voix souhaitait amasser des fonds pour Revivre, qui est un organisme d'aide aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, ainsi qu'à leurs proches. Ce même centre l'avait soutenu 6 ans plus tôt, lorsqu'il avait tenté de sauter la vie. Adolescent, j'étais profondément déprimé et suicidaire. Revivre m'a beaucoup aidé, affirme-t-il. J'ai donc à cœur de savoir qu'il existe des organismes qui sont là pour aider ceux qui souffrent. Après son expérience à La Voix, Stevens a eu envie de donner à son tour. En apprenant que Revivre traversait des difficultés financières, il a eu l'idée de voyager à vélo pour mettre en place une campagne de financement. La préparation du périple de Stevens fut rapide. Afin de déterminer son itinéraire, il a lu des blogs et consulté des sites spécialisés en cyclotourisme. En octobre, la température chute de manière significative. Il a donc convenu que la meilleure option serait d'atteindre le sud rapidement. Il a ensuite suivi un cours de mécanique de vélo, a acheté une tente et de l'équipement. Après seulement 2 semaines de préparation, il s'apprêtait à réaliser le plus grand exploit sportif de sa vie. Ma mère était en voyage au moment de mon départ. J'ai quitté la maison tellement vite que j'ai dû lui laisser une lettre pour l'informer, se souvient-il. Après 92 jours d'intenses efforts, Stevens était finalement de retour chez lui. Il avait atteint son objectif et amassé 5 460 $ et de nombreuses anecdotes de voyage. Voyager en solitaire sur une si longue distance engendre inévitablement son lot de risques et d'imprévus. Alors qu'il campait près d'une rivière dans l'État de Géorgie, un alligator a fait irruption en pleine nuit pour dévorer la nourriture qui se trouvait dans sa tente. Les conditions météorologiques n'étaient également pas toujours favorables. Alors qu'il atteignait le Texas, une mystérieuse vague de froid s'est abattue sur la région. Il se rappelle des moments difficiles passés à dormir sous la tente alors que la température descendait sous zéro. Après plusieurs jours à enchaîner des kilomètres à vélo, lorsqu'il est parti vers le sud des États-Unis, il arriva à Philadelphie. La ville de la fraternité allait cependant se révéler très inhospitalière. Alors qu'il roulait paisiblement, un gang de rue menaça de prendre sa bicyclette. Le groupe ne plaisantait pas et Stevens, qui n'avait jamais vu d'arme à feu, en avait maintenant une pointée vers lui. Alors que sa vie était en danger, il décida cependant de ne pas s'arrêter et continua de pédaler. Cette situation extrême m'a redonné la fougue et a réveillé mon côté rebelle qui ne se laisse pas intimider et tient à réaliser ses rêves, affirme fièrement le jeune homme. Et pour cause, malgré les moments difficiles qui ont ponctué son défi, il n'a jamais, jamais songé à abandonner. Ce cyclo-défi a également été l'occasion pour lui d'effectuer une profonde introspection. Après La Voix, je ne savais plus trop qui j'étais. Cette aventure en solo pendant 3 mois m'a permis de retrouver mes racines et de déterminer clairement le genre de vie que je souhaitais mener et la personne que je voulais être. Ainsi, le chanteur désire maintenant exploiter davantage son côté artistique rebelle, peu visible lors de son passage dans la populaire émission de télévision. Le plus grand accomplissement de son voyage a cependant été d'acquérir la certitude que dans la vie, tout est possible. Cette phrase, il se l'est d'ailleurs fait tatouer sur le poignet en arrivant au Golden Gate Bridge de San Francisco. « Chaque fois que j'écris, que je bois un café ou que je serre une main, mon tatouage me rappelle que tout est possible », conclut-il. Un peuple en marche, le chanteur Stephen Simeon a parcouru 1287 km à vélo pour soutenir l'organisme à but non lucratif Revivre. C'est écrit par Charles Hugo Normand et ça apparaît dans la Reader's Digest de février.
Alors, quelques brèves. Journée internationale de la toilette. Créer une journée internationale de la toilette peut faire sourire sur le coup. Mais derrière cette initiative de l'ONU se cache un enjeu majeur. 2,5 milliards d'humains n'ont pas accès à des installations sanitaires dans le monde. Ce manque d'installations a pour conséquence de nuire à la scolarisation des femmes, de causer la mort de 1 000 enfants chaque jour de maladies diarrhéiques, de contaminer des sources d'eau potable et d'augmenter les agressions envers les femmes. Inaugurée le 19 novembre dernier, cette journée s'inscrit dans un appel à l'action en faveur de l'assainissement. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé que les solutions comprennent des modifications techniques simples et un travail d'éducation pour modifier les habitudes. Les Nations Unies estiment que chaque dollar investi en assainissement de l'eau réduit les pertes de productivité et les coûts de santé de 8 dollars.
Bon, alors l'éternel combat contre la corruption, plus ça change. Amoralité, avarice, chantage, combine, conspiration, corruption, crapulerie, cupidité, cynisme, détournement, exaction, fraude, laxisme, magouille, malversation, manigance, rapacité, trafic d'influence, tripotage, vénalité. La commission Chabonneau a enrichi le vocabulaire politique québécois. René Lévesque croyait avoir mis fin à ces ruineux abysses de malhonnêteté par des réformes radicales des institutions. Mais chassé le naturel, et il revient au galop par la porte arrière. On achetait les votes, on s'achète maintenant une caisse électorale. Voilà ce qu'il disait à l'actualité dans sa dernière entrevue comme premier ministre à quelques heures de sa démission, le 20 juin 1985. L'instauration de l'intégrité du processus politique est peut-être la chose dont je suis le plus fier. Au Québec, il n'est plus possible aujourd'hui d'acheter des votes avec des cadeaux, ni même avec des promesses en l'air. Il faut qu'un parti ait fait la preuve de son sérieux pour promettre quelque chose. C'était là la base de tout. Sans ça, rien ne reste possible. Je me suis fait dire à l'étranger que cette intégrité, c'est pas possible. Eh bien, ici, c'est possible. Est-ce que ça va survivre, durer? Est-ce que c'est vraiment dans les mœurs? Alors, c'est une question qu'il posait en 85. Alors, la commission Chabonneau a révélé que c'est peut-être pas si facile que ça.
Et oui, et maintenant, 100 000... C'est le nombre d'unités de logements sociaux qui n'ont pas été construits au Canada en raison de l'annulation des programmes de financement pour de telles habitations.
Alors, on vous quitte quelques instants. Nous vous revenons après la pause.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, au retour de la pause, le dîner est offert. C'est un texte de Yannick Marcil, économiste indépendant, dans le journal L'Itinéraire du 15 janvier 2015. Dans une petite annonce, un organisme offre un stage non rémunéré de 3 mois en communication. Les tâches demandées sont exigeantes et nécessitent des compétences de haut calibre. Il ne s'agit pas ici de simplement répondre au téléphone ou de classer des papiers. Le stage permettra à celle ou à celui qui occupera le poste d'acquérir une précieuse expérience. En prime, et c'est ainsi que se termine l'offre, on précise que le dîner est offert. Loin de moi l'idée de jeter la pierre à cet organisme sans but lucratif qui ne dispose sans doute pas de moyens financiers, qui ne dispose que de moyens financiers très limités. Moyens qui sont probablement de moins en moins importants avec les multiples compressions budgétaires de nos chers gouvernements. En revanche, cette offre de stage est emblématique de plusieurs problèmes fondamentaux. Peu de statistiques existent à cet égard, mais on peut affirmer sans risque de se tromper que les stages non rémunérés se multiplient autant dans les organismes sans but lucratif que dans l'entreprise privée. Naguère, ces stages s'intégraient essentiellement à des programmes d'études. Dans ce contexte, les stages sont incontestablement légitimes. L'Allemagne, par exemple, a développé avec succès des programmes de collaboration entre les institutions d'enseignement et les entreprises afin de faciliter l'intégration au marché du travail des diplômés. Il s'agit dans ce cas de compléter la formation des étudiants par ces stages. La multiplication des stages non rémunérés que l'on constate chez nous reflète le sous-financement chronique des organisations communautaires. Leurs budgets sont exsangues et le gouvernement Couillard a le culot de prétendre que ces organismes pourraient, sinon devraient, prendre le relais de l'État dans la fourniture des services publics à la population. Tout cela en réduisant de façon éhontée leur financement, sous le couvert de l'idéologie d'austérité. Du coup, les organismes communautaires devraient offrir les services que l'État refuse maintenant d'assumer avec un budget réduit. Mais bien plus, les entreprises privées à but lucratif, celles-là, recourent de plus en plus aux stages non rémunérés. Pressées par leurs actionnaires ou simplement par la concurrence féroce, elles cherchent à réduire leurs coûts, particulièrement ceux reliés au développement de nouveaux projets, de nouveaux produits et de nouveaux marchés. Or, il s'agit là également d'une perversion de notre système économique. Pressées par la concurrence, notamment les entreprises sont forcées de réduire au minimum leurs coûts. Les stages non rémunérés deviennent alors un outil de gestion des coûts. De l'autre côté, les jeunes et moins jeunes diplômés n'ont d'autre choix que d'accumuler de l'expérience, puisque à peu près toutes les offres d'emploi en exigent. Abdiquer devant cette logique de la gratuité ne fait qu'empirer les choses. C'est envoyer le signal que tout travail ne mérite pas salaire, et cela réduit donc à zéro la valeur économique du travail de ces mois de stage. Il ne s'agit rien de moins que d'une vile exploitation de ce qui devrait être le plus noble, le travail. Mais au moins, le dîner est offert. C'est donc écrit par Yannick Marcil, économiste indépendant. Et maintenant, je mange des vidanges.
Ah,
eh oui, écrit par Alexis Aubin, toujours dans le journal L'Itinéraire du 15 janvier 2015.
C'est un peu froid pour ça aujourd'hui.
Oui. Mardi, fin d'après-midi, en voiture direction les poubelles. Nous allons récupérer des aliments, une activité communément appelée dumpster. Le dumpster diving consiste à récupérer la nourriture périmée ou abîmée, jetée à la poubelle par des commerçants lorsqu'elle ne répond plus aux standards du marché. Près de la moitié des 4 milliards de tonnes alimentaires produites annuellement dans le monde finiront dans les dépotoirs. Pourtant, ils sont souvent tout à fait comestibles. Premier plongeon chez un grossiste d'aliments biologiques dans le quartier Saint-Léonard. L'un saute dans la benne et les autres attendent qu'il leur tende les denrées encore emballées. Au travers de vieux emballages de plastique, du liquide répandu d'un bol à soupe éclaté, on trouve des plats préparés qui n'ont jamais touché les tablettes, du pain, du jus, des légumes souvent en parfaite condition. Les aliments périmés ne sont généralement pas insalubres. Selon l'Agence canadienne d'inspection des aliments, la date de péremption n'est pas une garantie de la salubrité de l'aliment. Elle constitue plutôt une indication pour les consommateurs de la fraîcheur et de la durée de conservation potentielle des aliments non ouverts et ce, sans altération. Ces réglementations, bien qu'elles veillent à la santé des consommateurs, encouragent le gaspillage alimentaire. Ceux qui pratiquent le dumpster se nourrissent en quelque sorte de l'absurde surproduction que génère la logique marchande et les lois qui la régissent. Certes, la gratuité est un facteur de motivation, mais il n'en demeure pas moins que cette pratique est souvent perçue par ses adeptes comme un pied de nez au système de consommation actuel. Marianne, une habituée de la récupération de nourriture, nous dit « Le dumpster, c'est génial, parce que ça nous permet de partager sans compter. On trouve tellement de bouffe dans les poubelles qu'on en redistribue. » Les chercheurs de nourriture tiennent tout de même à préserver une bonne cohabitation avec les commerçants en s'efforçant de laisser les lieux aussi propres, sinon plus qu'avant leur récolte. Il n'en demeure pas moins que faire les vidanges contrevient aux lois sur la propriété privée. À quelques pas de là, alors que l'on cherche des denrées dans un autre conteneur à déchets, un propriétaire nous interpelle. « Qu'est-ce que vous faites là? Ce sont mes poubelles. Je vais appeler la police, tu comprends? La prochaine fois que je te vois, c'est moi qui vais te mettre dans la poubelle. » Les commerçants sont mitigés vis-à-vis de cette pratique. Alors que certains donnent directement leur surplus, d'autres barrent leurs poubelles pour en empêcher l'accès. Eau de javel, déchiquetage, poubelles compressées sont des pratiques utilisées pour empêcher les fouilles dans les conteneurs. Malgré les embûches, nous suivons notre parcours. Le coffre de la voiture se remplit arrêt après arrêt, au point d'en être plein à craquer. Il ne reste plus qu'à partager le butin, le nettoyer pour consommer ses rebuts entre amis. De retour à la maison, tout est soigneusement lavé, plongé dans un bain rempli d'eau et de vinaigre. On se partage la récolte autour d'une grande table avant de se mettre à la cuisine tous ensemble. Voilà, c'était écrit par Alexis Aubin dans la revue L'Itinéraire du 15 janvier 2015.
On n'en entend peut-être pas assez souvent parler de ces choses-là.
Hein. Oui, oui, ça existe. Hein.
Ça existe, c'est sûr. Dans Relation du mois de février, un texte de, signé par Emiliano Arpin Simonetti, Contrôle social 2.0. Quiconque utilise Internet aujourd'hui doit s'attendre à ce que ses moindres agissements puissent faire l'objet d'une surveillance continue et en temps réel, particulièrement si cette connexion se fait à partir d'un téléphone mobile. Si nous pouvions déjà le soupçonner, les troublantes révélations d'Edward Snowden sur l'étendue de la surveillance menée sur la toile par la National Security Agency nous l'ont confirmé. Et alors? Si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre, rétroqueront bien sûr quelques bonnes âmes qui, par insouciance, qui pour tenter de s'en convaincre. Derrière cette affirmation, c'est pourtant tout le potentiel totalitaire de nos sociétés, de la surveillance et du contrôle social qui se profile. Elle trahit en effet la conscience d'être surveillée et le refoulement du malaise que cela provoque. Et c'est précisément dans ce refoulement que s'insinue le pouvoir, instillant la crainte, l'autocensure, la discipline, conjuguée à l'injonction bien post-moderne d'affirmer son individualité sur tout ce que le Web 2.0 compte de plateformes participatives. Cette dynamique disciplinaire atteint un degré tel dans nos sociétés qu'on semble aujourd'hui nous dire « Dévoilez-vous sans crainte, c'est la preuve que vous n'avez rien à cacher. » Cette exigence quasi absolue de transparence, il est cependant crucial de rappeler que c'est d'abord et avant tout aux personnes qu'elle s'applique. Les entreprises et les grands appareils d'État n'y sont pas tenus sous prétexte de secrets industriels, de sécurité nationale ou de tout autre intérêt soi-disant supérieur. Ce faisant, le contrôle public sur ces instances s'est effrité, tandis que leur pouvoir sur nous s'est accru considérablement, et ce, à la faveur de trois grandes dynamiques. Il y a d'abord la mutation de l'économie capitaliste, qui, au tournant du 21e siècle, a finalement réussi sa colonisation d'Internet après un premier essai infructueux ayant conduit à l'éclatement de la bulle technologique à la fin des années 1990. Ces dernières années, les grandes entreprises de la Silicon Valley, comme Google et Facebook, ont été à l'avant-garde de l'appropriation et de la marchandisation de ce que le réseau des réseaux produit le plus, des données sur les utilisateurs. L'analyse de plus en plus poussée de ces montagnes de données personnelles par le moyen d'algorithmes toujours plus sophistiqués permet d'assurer un profilage minutieux des comportements individuels. L'objectif est d'en susciter certains, les bons, c'est-à-dire ceux qui rapportent, notamment au moyen de publicités hyper ciblées et de programmes de récompense de tout acabit. C'est ce qu'on appelle communément du marketing behavioral, le comportement en marketing, qui n'est rien d'autre qu'un instrument de dressage au service de la production capitaliste. Certes, ces effets ne sont peut-être pas aussi directs que le souhaiteraient les entreprises qui y engloutissent des fortunes, mais son omniprésence dans les moindres recoins de notre quotidien et le raffinement de ces méthodes n'en induisent pas moins une incitation constante à la consommation présentée comme un moyen de construction de la personnalité. Deuxième dynamique. À cette dynamique redoutable de la nouvelle économie s'en ajoute une autre, non moins implacable, la raison d'État. Les lois antiterroristes adoptées un peu partout en Occident après les attentats du 11 septembre 2001 ont renforcé les prérogatives des services de renseignement dans ces pays, leur permettant d'étendre considérablement la surveillance de leur population. C'est notamment le Patriot Act aux États-Unis qui a ouvert à la National Security Agency l'accès aux bases de données des géants américains du Web et des télécommunications, dont Google, Apple et Facebook, permettant à l'agence d'espionner la quasi-totalité de la population américaine, mettant à profit les outils de profilage développés par l'industrie. Cette dérive sécuritaire qui pérennise l'état d'exception soi-disant au nom de la défense de nos libertés doit toutefois être comprise dans le cadre plus large de la transformation du rôle de l'État à l'ère néolibérale. Troisième dynamique, dernier facteur et non le moindre de cette tempête parfaite qui balaye notre droit à la vie privée, le développement effréné des technologies numériques. Depuis quelques années, cette industrie met entre nos mains une gamme toujours plus vaste d'outils permettant de surveiller son prochain. Caméras de surveillance, GPS, micropuces, On ne compte plus les gadgets et les applications mobiles qui nous permettent de veiller, parfois même à leur insu, sur nos proches ou encore sur notre propriété. On conçoit dès lors l'ampleur des luttes qui nous attendent si nous espérons regagner ces espaces d'authentique liberté, si précieux et essentiels à une vie collective riche, délestée de la peur constante de ce qui menace notre confort, délestée aussi de la peur d'avoir quelque chose à cacher et du repli sur soi qu'elle provoque. Plusieurs batailles en ce sens sont déjà amorcées. Les révélations d'Edward Snowden ont ébranlé l'ordre des choses. Le respect de la confidentialité des échanges devient une préoccupation croissante, nourrissant de nombreuses initiatives qui visent à redonner aux personnes un contrôle sur leurs données personnelles, à préserver la neutralité du net, à contrer la surveillance industrielle policière. Comme le rapportait récemment le journaliste américain Glenn Greenwald, le trafic des données encryptées de bout en bout, empêchant qu'elles soient lues par un tiers en chemin, a presque doublé en Amérique du Nord depuis les révélations sur les programmes de surveillance de la National Security Agency. Un texte qui analyse des questions évidemment très sérieuses. Contrôle social 2.0 par Emiliano Arpin Simonetti, c'est dans la revue Relations. Succès des sœurs McGarrigle, interprété par Edith Butler et Lisa Leblanc.
Oui, et c'est presque d'actualité aujourd'hui, moins 30 sur Sainte-Catherine.
On ne regarde pas dans les vitrines.
Voilà. Alors maintenant, aider financièrement ses enfants sans se mettre en péril, c'est un article écrit par Jacqueline Simoneau dans la revue Le Bel Âge de décembre 2014. Comme parent, il est naturel de vouloir donner un coup de pouce financier à ses enfants. Mais avant d'aller de l'avant avec ce projet, il y a plusieurs éléments à considérer. Conseils et stratégies pour faire les choses correctement. Fiston quitte la maison pour vivre en appartement. Votre fille veut acquérir une première voiture ou un bien immobilier. Votre aîné souhaite investir dans un placement. La Benjamine éprouve des difficultés financières. Mille et un scénarios peuvent inciter un parent à offrir un soutien financier à ses enfants. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit d'être cher qu'il faut faire fi de toute prudence. Aider financièrement un de ces rejetons, c'est bien. Mais dans la mesure, d'abord, où cela ne crée pas une dépendance. Dans le cas de demandes répétitives, on doit prendre le temps de regarder avec le quémandeur ce qui ne va pas. Au besoin, on lui conseille sur la façon de faire son budget ou de réduire ses dépenses pour corriger la situation. Évidemment, on n'offre pas un tel soutien si le geste met en péril notre sécurité financière ou notre retraite. On vérifiera donc l'impact financier et fiscal de cette aide. À ne pas oublier, comme l'espérance de vie et le coût de la vie ne cessent d'augmenter, il faut garder suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins financiers à long terme, en songeant qu'à la retraite, les revenus baissent. Bref, une analyse judicieuse permettra à chacun de déterminer l'aide qu'il peut apporter et le niveau de risque qu'il peut assumer. Alors, les différentes formes d'aide. Il existe différentes façons d'aider financièrement vos enfants. Le don d'argent et le prêt demeurent les plus prisés. Le don d'argent. Vous souhaitez offrir votre aide de votre vivant plutôt qu'après votre décès. Après tout, c'est en ces temps difficiles que vos enfants en ont réellement besoin. C'est une bonne idée, mais si possible, attendez que ces derniers soient majeurs. En effet, les dons d'argent à un enfant de 18 ans et plus n'entraînent aucun impact fiscal si la somme ne génère pas de revenus et si elle a déjà été imposée. Autrement dit, si votre enfant utilise cet argent à des fins personnelles, par exemple pour l'achat d'une voiture ou d'une propriété qu'il habitera, il ne paiera pas d'impôt sur ce montant, pas plus que vous. En revanche, s'il investit dans des placements qui produisent des revenus d'intérêt, il devra payer de l'impôt sur le rendement. Si le don est important, il peut être avantageux de l'officialiser à l'aide d'un acte notarié afin de protéger votre enfant. Ce document prouvera votre volonté de procéder à un tel don. Il démontrera également que le bénéficiaire ne s'est pas approprié de l'argent indûment. Il y aura lieu aussi de revoir votre testament. Si vous tenez à ce que tous vos enfants reçoivent une part égale de l'héritage, assurez-vous de léguer plus d'argent aux héritiers à qui vous n'avez pas fait de don. Et pour dissiper tout malentendu, notez que la donation à telle personne a été consentie en avance sur la part d'héritage, si c'est le cas. Ainsi, vous éviterez de provoquer un conflit de famille au moment de votre décès. Ensuite, le prêt d'argent. Votre enfant vous demande de lui prêter de l'argent afin qu'il n'ait pas à payer de l'intérêt élevé sur un emprunt bancaire. L'idée vous plaît. Après tout, contrairement à la donation, vous récupérerez cet argent tôt ou tard. Vraiment ? La règle à retenir, ne prêtez jamais une somme d'argent supérieure à ce que vous pouvez éventuellement perdre sans vous mettre en difficulté. Il se pourrait en effet que votre prêt ne soit que partiellement remboursé, voire pas du tout, si votre enfant perdait son emploi, tombait malade ou faisait face à des dépenses inattendues et se trouvait en mauvaise posture. Par ailleurs, si votre enfant veut vous emprunter de l'argent, c'est sans doute que sa condition financière est précaire. Soyez conscient du risque et prêt à l'assumer. Histoire de bien faire les choses, officialisez tout prêt avec intérêt à l'aide d'une reconnaissance de dette clairement écrite, comportant le nom du prêteur et celui de l'emprunteur, le montant du prêt, le taux d'intérêt, les modalités de remboursement, la signature de votre enfant et la vôtre. Si le prêt est important, prévoyez un acte notarié. Même si vous faites confiance à votre enfant, tenez une comptabilité rigoureuse des remboursements. Demandez aussi à être remboursé par chèque plutôt qu'en argent comptant. Sinon, rédigez un reçu pour chaque paiement effectué. Ainsi, vous aurez l'un et l'autre une preuve que chacun de ces paiements a bel et bien été effectué. Bien sûr, vous devrez déclarer au fisc les intérêts que votre enfant vous paye. N'oubliez pas de repenser votre testament, encore une fois. Si jamais vous décédez avant que le prêt ne soit entièrement remboursé, votre enfant pourra démontrer, grâce au reçu, qu'il a déjà remis une partie de sa dette. Cependant, si vous ne voulez pas qu'il ait à rembourser le reste de la dette à la succession, faites-lui un legs devant votre testament. Bon à savoir, vous pouvez en tout temps renoncer à réclamer les remboursements d'un prêt, et ce sans qu'il y ait d'incidence fiscale. Le prêt sera alors considéré comme un don. Enfin, l'endossement. Votre enfant n'est pas suffisamment solvable pour se qualifier auprès des institutions financières et vous demande donc de l'endosser. Pensez-y sérieusement avant d'accepter. En vous portant garant du prêt, vous serez aussi responsable que lui dans cette avenue. Et enfin, le REEE. Parce que si vous avez des petits-enfants, c'est une façon simple d'aider financièrement vos enfants qui consiste à souscrire ce régime enregistré d'épargne-études, REEE, pour chacun de vos petits-enfants. Les revenus générés sont non imposables. De plus, le gouvernement fédéral verse une subvention qui s'ajoute à votre investissement. Quant au gouvernement du Québec, il offre un crédit d'impôt remboursable versé directement dans le REEE. Une aide précieuse pour les parents. Assurez-vous toutefois de leur faire part de votre démarche afin qu'ils ne versent pas, eux aussi, une somme dans un REEE qui dépasse le droit à la subvention. Voilà, c'était quelques conseils pour aider financièrement nos enfants sans se mettre en péril. Voilà, c'était dans la revue Le Bel Âge. C'était écrit par Jacqueline Simoneau.
Bon, alors, il fait un peu chaud, on va aller dans le nord maintenant chez les Inuits. Dépasser le partage chez les Inuits? De plus en plus d'Inuits profitent de la popularité de Facebook pour y mettre en vente le produit de leur chasse ou de leur pêche. Un sacrilège, selon bien des gens de la communauté. Ça va à l'encontre des valeurs inuites, dit James Panioyak, président de l'Organisation des chasseurs et trappeurs Ekalutuktiak, au Nunavut. Pourquoi vendre la nourriture que vous obtenez gratuitement? Vous devriez l'échanger comme le faisaient nos ancêtres, écrit un internaute de Pond Inlet sur la page Facebook Country Food Exchange. Traditionnellement, les Inuits partagent la nourriture qu'ils chassent et pêchent. De nombreux villages ont même un congélateur communautaire de la taille d'une grande remise où chacun peut s'approvisionner gratuitement en cas de besoin. Mais sur la page du groupe Inuit Country Food Sell Swap, un lagopède, un proche parent de la perdrix, était récemment offert à 20 $, tandis qu'un paquet de 11 kilos de viande de narval se vendait 70 $. Est-ce que c'est meilleur que du mammouth? Je ne sais pas. Un membre du Kedgewick Sell Swap proposait, quant à elle, un grand filet de poisson fumé pour 40 $. Les valeurs, hein, ça évolue, là aussi.
Et maintenant, bienvenue à Montréal. Ce sont 70 % des nouveaux arrivants au Québec qui s'installent à Montréal. La ville publie pour la première fois un guide qui leur est destiné. Découvrir et vivre à Montréal couvre toutes les facettes de la vie québécoise et montréalaise, de la laïcité à la primauté de la langue française, en passant par l'égalité hommes-femmes et la non-discrimination sur l'orientation sexuelle. Le guide contient des informations en apparence anodines, mais savoir qu'on dit 4,5 plutôt que de s'étendre dans une grande description d'un logement de 4 pièces avec salle de bain peut être utile. Les immigrants trouveront pratique de découvrir que le boulevard Saint-Laurent sépare l'est et l'ouest de la ville et qu'il existe un Montréal souterrain de plus de 30 km de long, comprenant 8 stations de métro et plus de 2000 commerces. C'est pour échapper à l'hiver québécois, croiront-ils. Par ailleurs, nos amis du monde et nous aussi apprendront qu'un seul billet d'autobus ou de métro leur permet de transporter jusqu'à 5 enfants. Le saviez-vous?
Ah, on en apprend des choses, hein? 407 $, c'est ce qu'engrange chaque seconde Facebook, entreprise fondée par l'Américain Mark Zuckerberg. Une panne d'une trentaine de minutes, comme celle qu'a connue le populaire réseau social l'automne dernier, fait donc perdre près $1 million au deuxième des sites web les plus visités au monde. C'est après Google, évidemment. Maintenant, la gueule de bois. La gueule de bois pour le scotch écossais. Dur lendemain de veille pour l'Écosse, aucun de ces scotchs ne figure dans le top 5 de l'ouvrage britannique Whisky Bible, considéré comme la référence mondiale des connaisseurs. Pour la première fois, un single malt japonais a obtenu la meilleure note au classement suivi de bourbon américain. Oh, c'est difficile pour les Écossais. Bon, alors, c'était le Kiosque Magazine que nous avions à vous proposer aujourd'hui, en ce quelle date sommes-nous? En ce 8 février.
9 février.
9 février. Alors, ici, Francine Nieuviard, Roger Roy et Jean-Sébastien Laliberté en régie, nous vous disons...
Bonne semaine.
À la prochaine.